Voilà, c'est une joie de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Et alors, je n'ai rien inventé de nouveau. C'est bien. Alors, je n'ai rien inventé de nouveau aujourd'hui, mais je crois qu'il est bon de réfléchir à nouveau à un certain nombre de questions que nous pose le fait que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit dans notre cœur. Avant de quitter cette terre, Jésus nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Alors ça, c'est un encouragement pour notre vie de tous les jours, même si nous devons faire face à des menaces réelles ou imaginaires, peut-être aussi. S'il y a un manque de courage et de foi viennent se présenter à nous, c'est bon de savoir que le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Et les renseignements que j'ai trouvés pour cette réflexion viennent essentiellement d'un livre d'Alfred Kuhn qui nous parle du baptême et du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de nous pencher notamment sur la question de ce que ça peut être la plénitude du Saint-Esprit. Quelquefois, on entend parler de la plénitude du Saint-Esprit. Mais la première chose dont on s'aperçoit, c'est que l'expression telle qu'elle n'apparaît pas dans la Bible. Hein, c'est comme quand on se met à parler de la Trinité, ça ne fait pas non plus partie de la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Mais voilà, cette expression de plénitude dans le Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit, n'apparaît nulle part dans la Bible. Elle ne désigne pas un état vraiment bien défini ou catalogué, à vrai dire. La plénitude de l'Esprit exprime davantage un devenir, une qualité de vie, plutôt qu'une expérience vraiment vécue une fois pour toutes. En fait, la Bible nous parle de deux expressions. Soit on est rempli du Saint-Esprit, soit on est plein du Saint-Esprit. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'espère pouvoir être en mesure de mieux nous faire comprendre quels sont ces deux types d'expérience sur le chemin qui nous conduit à la plénitude. Il y a d'une part des expériences momentanées, lorsque le Seigneur veut se servir d'un ou de plusieurs croyants, en vue d'une intervention précise au nom du Seigneur. Et puis il y a une deuxième expérience qui est la croissance progressive, plus ou moins régulière, en sachant que la plénitude ne sera atteinte par nous que dans l'au-delà. Et on peut dire que seul en Jésus-Christ habitait toute la plénitude de la divinité, puisqu'il était à la fois Dieu et homme. Alors, la première expérience de plénitude, Henri Blocher, qui est un théologien évangélique, l'a appelée la plénitude par afflux. Un afflux, c'est quelque chose qui vient assez brusquement. Et les synonymes de ce terme d'afflux, qui est pas trop courant, qui fait un peu terme de spécialiste, mais si on parle de vague, si on parle d'un assaut, d'une influence, d'une grande quantité, d'une foison, ben, dans ces cas, l'auteur biblique, lorsqu'il parle d'expérience de ce genre, désigne toujours une intervention momentanée et soudaine du Saint-Esprit qui s'exprime par une parole prononcée au nom de Jésus, souvent accompagnée de l'exercice d'un don particulier, d'un charisme du Saint-Esprit, d'un don que le Saint-Esprit donne parmi les dons nombreux qui sont les nôtres lorsque nous vivons avec le Saint-Esprit dans notre cœur. Et Ralph Challis, un autre auteur qui s'est penché sur cette question-là, dit que cette plénitude, une telle plénitude, a surtout le but de rendre efficace le témoignage des apôtres en faveur du Christ, ou le témoignage aussi des croyants aujourd'hui en faveur du Christ. Et on découvre dans la Bible qu'en remplissant les apôtres, l'Esprit apportait à la foi, à la parole, au témoignage rendu par les apôtres, l'autorité de Dieu. Il manifestait l'autorité de Dieu. Et cette expression nous fait aussi songer, dit un autre, Jean Cadier, nous fait songer à un torrent violent qui vient de la montagne et qui emporte un peu tout sur son passage. C'est donc quelque chose qui, comme on pourrait dire, nous réveille, nous fait sortir de peut-être notre vie de tous les jours, de notre torpeur, de voilà. Et il envahit, il nous envahit, il souffle avec impétuosité. Et une telle expérience, bien sûr, peut se renouveler, et il suffit pour ça de lire attentivement le livre des Actes pour s'en convaincre. Et je ne voudrais prendre aujourd'hui que deux exemples dans le livre des Actes qui me paraissent très très clairs. Dans Acte 2, vous savez que Acte 2 raconte ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et les disciples étaient réunis depuis l'ascension de Jésus, lorsque Jésus est monté au ciel. Jésus leur avait demandé de se rendre dans la ville et d'attendre que l'Esprit, que le Saint-Esprit soit répandu. Et au verset 4 de ce chapitre 2, on lit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça, c'était vraiment extraordinaire. Et les gens qui étaient là, réunis avec les apôtres, qui avaient prié, devaient être vraiment surpris, parce qu'il y avait des gens de différents pays qui parlaient différentes langues, et chacun les entendait parler dans leur langue de ce que l'Esprit voulait faire. Ça, c'est le premier exemple. Deux autres exemples de cette plénitude, maintenant que les apôtres avaient été remplis de l'Esprit le jour de cette Pentecôte, et ça a eu pour conséquence que 3000 personnes ont décidé de changer de vie, de se convertir, de venir à Jésus-Christ et d'accepter d'être aussi remplis en conséquence par le Saint-Esprit. Mais très vite, après cette expérience, les apôtres ont dû faire face à des menaces, et à des menaces bien réelles et sérieuses de la part de ceux qui ne supportaient pas le témoignage rendu. Au chapitre 3, nous découvrons la guérison d'un homme qui était paralysé et qui avait plus de 40 ans, et qui a été guéri par les apôtres. Et au chapitre 4 et au verset 8, déjà dans les Actes, nous découvrons la qualité, si on peut dire, ou nous découvrons l'ampleur de cette menace bien réelle. Et cette menace venait de la part des prêtres et des religieux de l'époque qui ne supportaient pas que les apôtres disent aux gens que Jésus était ressuscité et que cette puissance provenait de lui. Dans cette circonstance de menace grave, Pierre, qui était déjà plein de l'Esprit depuis la Pentecôte, a été rempli de l'Esprit. Et a fait, une fois de plus, avec Jean, l'expérience de cette situation peu courante. Et au verset 8, nous lisons que « Alors, Pierre, rempli de l'Esprit », donc pas seulement plein, mais rempli de l'Esprit, leur dit ceci. Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et puis un petit peu plus loin, trois versets plus loin, dans Actes 4, au verset 13, on voit la réaction de ces religieux qui ont entendu cette déclaration de l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Est-ce que nous faisons aussi face à des menaces? Et est-ce que ces menaces sont réelles ou est-ce qu'elles sont des menaces supposées? Je crois que nous pouvons dire que nous rencontrons souvent plutôt des menaces supposées, et ces menaces supposées ont tendance à nous faire peur, à nous rendre prudents, parce que ce sont des menaces qui peuvent simplement perturber un peu notre confort, nos habitudes, notre manière de vivre. Je crois qu'on peut dire que ce sont les menaces que nous rencontrons le plus fréquemment aujourd'hui. Nous, ici. Par contre, ceux qui sont persécutés pour leur foi rencontrent des menaces semblables mais réelles. Et c'est l'occasion pour nous de penser à tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, qui ont aussi reçu le Saint-Esprit, mais qui sont menacés de manière terrible, menacés par la prison, menacés par la mort. Ces menaces ont été dures, et Pierre et Jean ont été enguirlandés, on peut dire, voire plus que cela, à cause de cela. Ils ont été menacés, on leur a demandé de se taire, de ne plus parler. Et en réaction, ils ont dit qu'il valait mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Et après ces menaces, une fois qu'ils ont été relâchés, Pierre et Jean ont rejoint l'Église naissante. Et ils ont témoigné de ce qui leur était arrivé. Et suite à leur témoignage, ils ont prié tous ensemble. Et ils ont demandé l'aide du Seigneur. Et cette prière est exprimée au chapitre 4, toujours, à partir des versets 24. Et je crois que c'est important de la lire aujourd'hui. Que les menaces soient pour nous des menaces supposées ou peut-être aussi des menaces réelles. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, notre serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Et c'est là une citation du psaume 2. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction, qu'il a choisi. Il est vrai, il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus-Christ, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main avait décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Et le verset suivant, dans Actes 4, 31, nous dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Ils étaient déjà pleins du Saint-Esprit, mais le Seigneur, en cette occasion, les a remplis du Saint-Esprit. Et par cette expression de remplis du Saint-Esprit, il s'agissait d'un afflux soudain d'énergie spirituelle au service de la parole et de la mise en œuvre des dons que le Saint-Esprit donnait. Alors comment est-ce que se manifeste ce don ? Ce don se manifeste par certaines caractéristiques. Il se manifeste par la hardiesse, hein, le courage par lequel les apôtres, qui permet aux apôtres d'annoncer la parole de Dieu. Il se manifeste par l'assurance, par la liberté de parole, par une autorité spirituelle renouvelée par le Saint-Esprit. Et une telle expérience pouvait se vivre à l'époque, mais peut se vivre aussi aujourd'hui encore par la foi. Alors c'est une expérience occasionnelle, une expérience qui se produit avec une certaine régularité, mais de temps en temps. On est rempli du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est une expérience un peu hors du commun, qui n'est pas donnée forcément à tout le monde. On ne peut pas dire ça. Et j'aimerais parler de la deuxième expérience de plénitude, ou d'une autre expérience, d'une autre forme d'expérience de plénitude, qui est plus courante, et à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui. C'est la plénitude que Henri Blocher, toujours, appelle la plénitude par saturation ou par imprégnation. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme synonyme ? On pourrait parler d'un tissu, par exemple, lorsqu'il est imbibé, lorsqu'il est humide, plein de liquide, ou lorsqu'il est plein de parfums, parfumés. Et c'est aussi fréquemment utilisé dans les actes. Par exemple, je donnerai quelques exemples. Ça sert à exprimer une plénitude plus durable, une imprégnation qui peut aller jusqu'à la saturation. Lorsqu'on est plein du Saint-Esprit. Et ce deuxième type de remplissage du Saint-Esprit correspond davantage à notre recherche de maturité chrétienne, à laquelle nous sommes tous appelés. Ainsi, les personnes appelées manifestent d'une manière courante et régulière ce qu'est le fruit de l'Esprit, que l'on trouve par exemple dans Galates 5 au verset 22. Et ça se traduit par une nouvelle qualité de vie. Par exemple, dans les Actes, au chapitre 6, les gens ont recherché des diacres qui étaient en mesure de s'occuper des choses un peu plus matérielles qui concernaient l'Église. Et lorsqu'il s'est agi de choisir ces diacres, au verset 3 du chapitre 6, on dit qu'on cherchait des personnes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. Donc, à la présence de l'esprit est adjoint la sagesse. Au verset 5 de ce même chapitre 6, on dit qu'ils élurent Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint. Un petit peu plus loin, dans les Actes, au chapitre 11, Barnabas, qui était envoyé de Jérusalem à Antioche, est qualifié d'un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et puis au chapitre 13, encore pour décrire les disciples, on dit que quant à eux, ils étaient remplis d'Esprit Saint et de joie. Donc à la présence de l'Esprit Saint dans ces hommes sont associés la sagesse, la foi et la joie. À vrai dire, cette plénitude devrait être aussi l'expérience normale et régulière de tout chrétien de moi aujourd'hui. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'exhortation de l'apôtre Paul au chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, au verset 18, quand nous lisons ce verset, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et tous les commentateurs font remarquer avec raison que Paul se sert dans cette exhortation d'un verbe à l'impératif, « Soyez remplis aujourd'hui de l'Esprit-Saint » pour exprimer une action continue de la part de l'Esprit. C'est continuellement que je suis appelé à aspirer à la plénitude du Saint-Esprit pour que je sois toujours à nouveau rempli de l'Esprit dans une expérience constamment renouvelée. Et Jésus a promis des fleuves d'eau vive à ceux qui auraient l'Esprit lorsqu'il a parlé de cette effusion de l'Esprit-Saint. Il a parlé d'eau vive, il n'a pas parlé d'eau stagnante. D'autre part, Paul fait aussi usage d'une expression un peu passive pour nous pousser à une attitude d'ouverture et d'accueil pour recevoir la plénitude dans la foi comme un cadeau de Dieu. En disant, quand il dit « soyez remplis de l'Esprit », c'est aussi comme s'il disait « laissez-vous remplir de l'Esprit ». Ayez la disposition qui permette à l'Esprit de vous remplir. Et cette plénitude par imprégnation, par saturation, elle se manifeste avant tout dans nos relations avec Dieu, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Le fait d'être plein d'esprit exprime concrètement la réalité de notre unité en Christ, de notre appartenance réciproque en tant que membre de l'Église du Seigneur. Ailleurs, Paul dit « Vous êtes le corps du Seigneur, le Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part » dans 1 Corinthiens 12, 27. Et dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens, du chapitre 5, de cette plénitude à laquelle nous sommes invités en Christ, elle se caractérise par les traits suivants. Elle se caractérise par le dialogue, le partage, le fait de se parler. Au verset 19 du chapitre 5, il est dit « Entretenez-vous les uns les autres ». Elle se caractérise aussi par la louange, par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. Célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Elle se caractérise aussi par la reconnaissance. En toute chose, rendez toujours grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis elle se caractérise concrètement par la soumission mutuelle. Une soumission qui exprime précisément, concrètement, notre appartenance mutuelle. En Christ, je suis libéré de ma solitude, je suis libéré aussi de mon individualisme. Et toute la suite de l'enseignement de l'apôtre Paul, dans la fin du verset 5, pardon, du chapitre 5, et tout au long du chapitre 6, nous montre que cette soumission mutuelle doit s'appliquer et doit être vécue dans le respect de l'ordre de Dieu. Elle doit s'appliquer au sein du couple, entre les versets 20 et 33, au sein de la famille, et puis finalement exprimée par le combat spirituel à la fin du chapitre 6, qui reste dans le même contexte. Et c'est peut-être même le principal enjeu de toute cette situation. Parce que le Saint-Esprit en nous veut combattre. Et veut combattre notre adversaire qui s'échine et qui fait tout ce qu'il peut pour que cette communion soit interrompue, que cette communion soit interrompue entre nous-mêmes et Dieu et entre nous-mêmes et l'Église qui est autour de nous. Ce ne sont là que quelques illustrations, mais en conclusion, j'aimerais dire que nous avons commencé par parler du fait d'être rempli du Saint-Esprit. C'est moins courant, moins habituel. Nous avons fini par parler d'être plein du Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous engage. Le deuxième état est plus constant. Il s'exprime généralement par le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit, et dans le sens où il nous engage à ce que le Saint-Esprit nous pousse davantage à la communion avec Dieu et avec, évidemment, l'Église. Et je vous encourage, peut-être si vous avez le temps dans la semaine, à revoir ces chapitres 2 et 4 des Actes, et aussi à voir comment le Saint-Esprit manifeste cette communion dans les chapitres 5 et 6 d'Éphésiens, tout en gardant bien à l'esprit que c'est Dieu qui est souverain. La souveraineté du Saint-Esprit définit la puissance spirituelle non pas comme la puissance du chrétien par le moyen du Saint-Esprit, mais comme la puissance du Saint-Esprit par le moyen du chrétien. Et c'est un petit peu différent. Dieu, l'Esprit-Saint, ne peut jamais être employé, utilisé. On ne se sert jamais de Dieu. On n'a jamais le Saint-Esprit. On ne possède jamais le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a et c'est lui qui nous possède pour des fins qui sont connues de lui seul. Et je crois que si nous restons dans cette disposition-là, alors nous pourrons lui ouvrir largement les vannes de notre cœur, de toute notre vie, afin qu'il y prenne mieux et chaque jour toute sa place. Que le Seigneur nous fasse la grâce de l'accueillir toujours davantage et de ne pas lui résister, de ne pas l'attrister, mais d'être fidèle à ce qu'il nous proposera de faire dans l'amour de Dieu. Amen.